Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Et la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Cette semaine, nous allons nous demander s'il y a peut-être un bon philosophe. Si la somme des connaissances et l'absence d'émotions perturbatrices permet de mieux penser son existence, son rapport aux autres, sa place dans le monde, le bonheur, la vie en général. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles, Parlez-moi d'IA. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous leurs aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune-singulier.fm, sur la bande FM à Paris sur le 93.1 et sur le DAB+, et bien sûr en podcast sur votre plateforme préférée. Comme d'habitude, n'hésitez pas, like, étoiles, commentaires, ce sont nos seules récompenses et on vous remercie d'avance. Si jamais vous nous écoutez depuis LinkedIn, n'hésitez pas à m'ajouter, comme ça vous serez prévenu des prochains épisodes. Nous avons déjà mené ici de nombreuses réflexions sur la place des IA, notre rapport à ces nouveaux outils et même la manière d'être créatif avec elles. Mais peuvent-elles nous aider à être plus heureux, à mieux réfléchir, à mieux penser notre existence ? Une IA peut-elle être un bon philosophe ? Après tout, elle semble avoir un savoir très étendu. Elles paraissent mieux maîtriser les concepts et ordonner les pensées. Rappelez-vous, dans la BD Dream Machine de Laurent Daudet, elle semble être capable de mettre de l'ordre dans le chaos. Une IA peut-elle être un bon philosophe ? C'est la question, et notre invité du jour se l'est posée pour sa pièce de théâtre Chatbot le robot, où une poignée de grands philosophes expertise une sorte de ChatGPT, maintenant on peut le dire comme ça, pour savoir s'il est philosophe. Notre invité est lui-même philosophe. Mais c'est en fait un touche-à-tout. Il est conseiller artistique dans le domaine de la danse, il est professeur à l'IHECS à Bruxelles, il est commissaire des rencontres inattendues à Tournai, il est spécialiste du philosophe de la technique Gilbert Simondon, dont il va aussi nous parler un petit peu. Bonjour Pascal Chabot.
Bonjour Jean-Philippe Clément.
Merci d'être avec nous à distance, on l'entend, et merci de bien vouloir nous parler de ce livre qui est sorti finalement il y a un petit bout de temps, bien avant la vague actuelle des IA et des chatbots.
Oui, en 2016, il y a 7 ans.
Et vous l'avez joué au festival justement des Inattendus à Tournai.
Oui, c'est un festival qui fait se rencontrer des philosophes et des musiciens chaque année à la fin du mois d'août à Tournai. Et on a la chance de pouvoir y créer certains spectacles, dont celui-là qui mettait en scène une intelligence artificielle, un chatbot et un jury de philosophes professionnels qui lui posaient des questions.
Il lui pose quatre questions pour savoir s'il est philosophe. On va revenir sur les quatre questions.
Alors oui.
parce que c'est un peu un test de Turing que vous lui faites passer à ce chatbot, en fait. Vous essayez de voir s'il est capable.
Tout à fait. L'idée était de faire se rencontrer deux types d'intelligence, avec chaque fois des guillemets, l'intelligence artificielle, ouais. Et puis le type d'intelligence qui préside à la réflexion philosophique, et de faire se rencontrer de façon fictionnelle, c'est-à-dire en se gardant une possibilité de créer ces intelligences-là, parce que l'intelligence, on ne sait jamais ce que c'est. On ne la voit qu'en action, et c'est en action qu'on peut commencer à la qualifier, voir ses effets aussi. Finalement, être intelligent, c'est savoir à quoi ça sert d'être intelligent, et c'est ça que le robot devait démontrer à des philosophes professionnels.
Ouais. La première question que vous lui posez d'ailleurs, c'est un robot peut-il être philosophe au robot à lui-même en fait?
Oui, tout à fait. Demander si un robot peut être philosophe, c'est demander si le type de savoir que cette machine produit, expose, a un statut qui peut être considéré comme philosophique.
Ouais.
Bon, là-dessus, le robot est assez clair sur le fait qu'il est un âne savant.
Oui.
Il ne fait que parodier ce dans quoi il a longuement mouliné. Mais il a mouliné longuement. Il a pendant des mois et des mois, et avec sa puissance de calcul, passé en revue les grands dictionnaires de la philosophie, toute une série de discussions. Il a emmagasiné des concepts et il répète. Il est uniquement dans l'imitation.
Ouais.
Mais c'est une question qui nous concerne aujourd'hui. Quand on ne fait qu'imiter, est-ce qu'il n'y a pas un moment où cette imitation se mue en quelque chose d'autre, où cette imitation peut aussi avoir des effets imprévisibles, des effets inédits, grâce notamment aux puissances de calcul, mais aussi grâce à quelque chose qui est un dépassement intrinsèque de l'imitation.
Vous faites partie de ces penseurs qui trouvent que dans l'imitation il peut y avoir aussi une créativité, finalement, à un moment donné où la machine dépasse justement la simple imitation, la simple singerie, et commence à créer de nouvelles choses.
Alors pour réfléchir à cette question, qui est une question très importante, il faut d'abord se demander comment apprennent les humains.
Oui.
Les humains apprennent par imitation. Nous sommes des capteurs et des enfants, et surtout les enfants, je dirais, nous captons tous les signaux de notre entourage en reproduisant ces signaux grâce à notre propre cœur et notre propre corps. Les neurones miroirs, ce n'est rien d'autre. Le langage, l'acquisition du langage, ce n'est rien d'autre. L'écriture, plus encore. Donc, nous sommes des grands imitateurs qui, à un moment, développons un style singulier, donc une personnalité aussi, où fusionne tout ce que nous avons imité pour créer de l'unique, pour créer du neuf. Ça, c'est le modèle de l'émergence d'une créativité humaine à partir d'un fond imitatif. Et on sait bien que s'il n'y a pas ce fond imitatif, il n'y a pas de développement humain. C'est ce qu'on appelle la culture.
Ouais. Bon.
Alors,
qu'est-ce qui empêche la machine de faire de même?
Voilà, ça c'est toute la question. Nous avons cette possibilité analogique là, mais cette possibilité analogique là, elle est possible à partir du moment où il y a quelque chose comme un devenir, une durée, un milieu mental, finalement un milieu mental dans lequel on utilise ce que l'on a emmagasiné, ce que l'on a engrangé, pour s'accorder le mieux à quelque chose qui sont nos désirs, notre façon de sentir les situations, notre manière de nous individuer, pour reprendre un mot de Simondon, de devenir.
Bon, oui.
La manière dont la machine
fonctionne,
elle imite, oui. et puis à partir de ces imitations créer du neuf est très différente.
Oui.
Très différente. Il faut être là-dessus capable de définir, de préciser. C'est une démarche que par exemple Eric Sadin, qui est un des grands penseurs du numérique contemporain, souligne plusieurs fois, toujours commencer à définir, à savoir de quoi on parle. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, il faut dire que la manière est une manière probabiliste, est une manière qui travaille avec des valences, des vecteurs linguistiques très très différentes, évidemment, de la manière humaine.
Oui.
Cela étant, et c'est pour ça que moi la fiction m'a servi, cela étant, on ne peut pas a priori dire que de toutes ces imitations ne naissent aucune création. C'est l'a priori qui est pour ainsi dire impossible, et c'est pour ça que ce sont des beaux problème philosophique, parce que on est face à des évolutions qui nous dépassent et qui mettent finalement en question les analogies auxquelles nous sommes habitués de procéder.
Oui. Et d'ailleurs, la machine dans la pièce renvoie un peu les humains dans leur corde, et renvoie cette question finalement de dire, mais n'est-il pas contradictoire d'être humain et amoureux de la sagesse? Et du coup, voilà, vous me demandez d'être philosophe, mais est-ce que vous l'êtes vraiment, vous, de votre côté? Est-ce que vous êtes vraiment amoureux de la sagesse?
Mais c'est ça, quand on veut créer des modèles, enfin des dispositifs qui nous imitent, c'est-à-dire finalement quand on est dans une logique où on crée des miroirs, c'est alors s'exposer à se voir poser des questions auxquelles on n'est pas spécialement habitué à répondre. Vous me demandez si je suis philosophe, mais savez-vous, vous, ce que c'est que d'être philosophe?
Oui.
C'est pas une question si facile, c'est peut-être la plus belle des questions de la philosophie. Et c'est pas une question à laquelle on peut avoir une réponse statique, une réponse une fois pour toutes, mais on est philosophe parce qu'on traite tel ou tel problème de telle façon qui, dans cette situation de vie, peut donner des effets de pensée. Et le robot, là, qui est vraiment un âne savant, finalement montre par les effets de pensée qu'il peut créer, que il dépasse tout de même la seule identification machinique auquel on le cantonnait.
Et bien
finalement, ce que ce robot dit, il dit qu'il est nouveau ontologiquement. Ontologiquement, il y a une sorte de tripartition
oui.
entre les dieux, les humains et les animaux, et il excède.
Oui. Et vous pensez que du coup, dans cette tripartition, il faut créer une nouvelle catégorie aujourd'hui pour réussir à penser et à réfléchir les IA. C'est-à-dire que c'est ni un animal, ni un homme, ni un dieu. C'est encore autre chose. Est-ce que il faut s'imaginer.
Oui, je pense. Je pense qu'il faut progressivement enrichir notre ontologie parce que les modèles humains, animaux et divins, qui sont les trois grands modèles d'entités avec lesquels la culture, je dirais occidentale, mais humaine en général, puisque finalement tout l'animisme reste pensable dans avec le schéma du spiritualisme, ces trois modèles ne suffisent pas à rendre compte de du mode d'existence, là le terme est très simondonien, du mode d'existence d'outils qui, sur base d'imitation, en viennent à produire des effets qui nous étonnent, qui sont en amélioration constante et finalement qui structurent des domaines entiers du réel et sans doute de plus en plus. Ah, il faut enrichir l'ontologie, ça c'est certain.
Ça tombe bien que vous parliez de Gilbert Simondon. On va en parler en deuxième partie d'émission. Et donc, je vous propose de faire une petite pause musicale. Après ces premières réflexions très profondes, je vous propose de faire une pause musicale apaisante proposée par notre programmateur musical Gare Laban. On écoute Science du bruit, tout un programme par Chose Sauvage. Chose sauvage, merci Gare Laban. Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris, toujours par les Modia, toujours l'épisode consacré à la pièce de théâtre Chatbot, le robot. qui se demande s'il y a peut-être un philosophe, un bon philosophe, avec son auteur, le philosophe Pascal Chabot. Pascal, on a donc évoqué un peu le grand dispositif de cette pièce de théâtre, et puis on a commencé à évoquer Gilbert Simondon, qui est un grand philosophe de la technique dont vous êtes un spécialiste. J'avais envie de vous poser une question avant d'aborder Gilbert Simondon sur la mise en scène en fait, de cette pièce. Est-ce qu'il y avait un dispositif particulier que vous avez dû mettre en place justement pour mettre en scène la technique sur un plateau de théâtre?
C'est une bonne question. C'était toute la difficulté. Ici, on a eu la chance de pouvoir travailler avec l'acteur Robin Renucci,
ouais.
qui a fait le rôle du chatbot. Et le dispositif scénique était assez basique, assez simple, c'est-à-dire que on a vraiment assumé qu'il s'agissait d'un type de lecture, au sens où on était dans le langage, on était dans la parole, et on était très très peu dans le visible, au sens où au niveau du visible il y avait des corps humains, mais il n'y avait pas je ne sais quelle entité que l'on aurait par exemple fait parler à partir d'un dispositif, d'une boîte, d'un ordinateur ou quoi.
Donc il y avait des corps qui incarnaient.
On a pris la bonne vieille humaine. Voilà, parce qu'on n'avait pas non plus des budgets de scéno incroyables. C'est intéressant cette question-là parce que ça interroge nos représentations visuelles de l'intelligence, ouais. et de la technique. Et si dans le monde des outils, dans le monde industriel, on a toute une série de référents, dans le monde numérique, on en a beaucoup moins. On en a beaucoup moins, oui. Parce que le type de production de gestion des data à partir du silicium finalement,
oui.
Est profondément immatériel et tout à fait immatériel. Alors ce qu'on a, c'est du visible sur un écran évidemment, ou bien de l'audible via l'audio, mais on sait que cela dépasse. Et les imaginaires du réseau, on peut aussi les figurer avec quelques clichés, mais on sait que ça dépasse aussi. Et on parle du nuage, on parle du cloud, ce sont chaque fois des métaphores, qui sont des métaphores intéressantes, mais les visualiser, déjà cinématographiquement, c'est pas évident, alors théâtralement, c'est encore plus difficile, et c'est pourquoi je pense qu'il faut être capable d'assumer que par la parole, on convoque des effets de réel qui suscitent l'imagination alors des spectateurs.
Oui, et c'est vrai que du coup, le corps est obligatoire sur scène dans ces cas-là. Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai pour préparer cette émission, j'ai repris les 4 questions de la pièce et je les ai posées à ChatGPT. je lui ai demandé, un robot peut-il être philosophe ? ChatGPT, existez-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Et puis la troisième question, qu'est-ce que la conscience de soi pour un robot philosophe ? Et puis la quatrième question, les robots peuvent-ils être meilleurs que les hommes ? Et ben, vous avez raison, il est très humble, ChatGPT, encore aujourd'hui. Il se refuse en fait à vouloir affirmer une existence et une conscience. Et effectivement, il a un peu répondu. Alors, il était un peu moins sûr de lui quand même que le chatbot que vous interrogez dans la pièce. Mais je l'ai trouvé très humble, le ChatGPT. Et puis je vais demander aussi, et puis on va y venir du coup. Je vais aussi demander comment, qu'est-ce que le philosophe Gilbert Simondon aurait pu théoriser justement à propos de l'avènement des IA et des LLM. Et là, pareil, il m'a dit. Alors, d'abord, il m'a confirmé qu'il savait que Gilbert Simondon n'avait pas trop écrit directement sur l'intelligence artificielle, mais il m'a reparlé des grandes notions qu'on va aborder ensemble sur le rapport entre l'être humain et la technologie, sur l'individuation dont vous avez parlé, sur la transindividualité. Est-ce que vous pouvez nous faire découvrir là en très peu de temps, c'est la radio, mais ce philosophe de la technique, Gilbert Simondon, si on ne le connaît pas, qu'est-ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui dans le monde des IA?
Très volontiers. Et avant d'y venir, d'abord, je voulais saluer le fait que vous ayez posé ces questions à ChatGPT. Il y avait un ami qui l'avait fait il y a 5 mois, et ce serait tout à fait marrant et instructif de vérifier les réponses il y a 5 mois, de les vérifier et de les comparer avec celles que dans 5 mois peut-être et dans 1 an les machines donneront pour avoir une sorte de cartographie de l'évolution, de ce type de réponse. J'ai pas dit de réflexion, mais de réponse. Alors, Simondon, oui, Simondon, c'est un continent tout à fait fabuleux. Moi, j'avais fait en 2000, je pense que c'était la première thèse de doctorat qui était consacrée à ce penseur, auquel on s'intéressait à ce moment-là relativement peu. J'avais reçu tous les inédits de la part de sa veuve. C'était assez émouvant de trouver un contact avec une pensée élaborée à la fin des années 50, au début des années 60, dans une certaine solitude. La France intellectuelle parlait de marxisme, elle parlait de psychanalyse, elle parlait absolument pas de technique, et Simondon était assez décrié à ce moment-là. Enfin, c'était même pas décrié, c'était plutôt ignoré. Une sorte d'ignorance tranquille en disant, tiens, du côté des techniques, il se passe pas grand-chose. Et dans les années 2000, encore, quand on travaillait en philosophie des techniques, on était relativement marginalisé dans le monde philosophique, alors qu'aujourd'hui la philosophie des techniques est devenue absolument centrale, et tout qui fait par exemple de la philosophie politique fait ipso facto de la philosophie des techniques. Alors Simondon fait un grand livre.
Oui, allez-y, oui, pardon.
Il fait un grand livre dans les années fin des années 50 qui s'appelle Du mode d'existence des objets techniques, où il cherche à comprendre comment existe un objet à partir de sa genèse, à partir de son développement, en disant ben un objet technique, c'est pas simplement une idée qui est matérialisée, c'est une idée, effectivement, au début, une idée qui, en se matérialisant, oblige son inventeur à trouver une série de stratagèmes et de dispositifs concrets pour que les différentes fonctions qu'il attend de cet objet puissent cohabiter et puissent s'enrichir mutuellement. C'est ce qu'il appelle le processus de concrétisation. Mmh. Et il fait une sorte de philosophie d'abord de l'invention et puis une philosophie du devenir des objets techniques. Et c'est tout à fait passionnant.
Est-ce que c'est trop résumé que de dire que du coup il pense la technologie comme une extension de l'humain et qu'il accepte cette vision de la technologie? C'est trop rapide peut-être.
Non, c'est une bonne voie d'accès. Extension d'humain en tant qu'elle est d'abord pensée par l'humain, en tant qu'elle fait à ce titre partie de la culture technique. Simondon va être un des grands pourfendeurs d'une certaine technophobie facile qui dit bon ben là on est en dehors de l'humanisme, on crée des objets. Non, il dit non, les objets sont des créations humaines au même titre que les livres et que toute une série d'autres artefacts artistiques, par exemple.
J'ai entendu dire qu'il arrivait en cours et il faisait décortiquer à ses étudiants des dispositifs techniques pour que finalement, ils mettent les mains dedans.
Les légendes sur Simondon, qui était un homme mystérieux, sont nombreuses. On a fait pour info un film,
un documentaire, oui. On peut trouver sur le web, on mettra le lien dans l'émission, ouais, tout à fait.
Tout à fait, ouais, parce que François Lagarde, qui est un ami, un magnifique réalisateur, à son décès, avait voulu que ses films soient en accès libre sur le net, ce qui est très simondonien aussi. Oui. Simondon du désert est un accès libre. Et effectivement, Simondon avait des labos, c'était un homme d'expérimentation, c'était un homme qui savait de quoi il parlait, c'était pas uniquement un philosophe du langage, c'était un philosophe de la matière qui visait à ce que l'objet ne crée pas de nouvelles aliénations. Donc que l'objet soit intégré dans une culture technique. Ce qui montre à la fois la grandeur, l'optimisme généreux de cette pensée-là, et puis sa limite aujourd'hui, ou alors sa force critique si on veut le prendre autrement, parce que il est certain que Et c'est aussi ce que j'ai voulu montrer dans ma pièce. Comme telles, quand elles font des sortes de démonstrations qui sont presque des démonstrations de foire, ces intelligences artificielles peuvent être tout à fait subjugantes, même extraordinairement sympathiques. Mais dans quel type de milieu associé ? C'est le concept de milieu associé. Ça vient de Simondon. Mmh. C'est un objet. Un objet n'est jamais seul. Il est pris dans un réseau,
dans
qui est un
contexte,
réseau
ouais.
technique. Ouais, un contexte, mais qui est aussi un contexte dans lequel sont traduites des valeurs, qui sont des valeurs financières, qui sont des valeurs parfois de pouvoir, qui sont des dispositifs qui vont réguler telle ou telle entreprise, qui vont réguler les travailleurs ou obliger les travailleurs à faire les choses de telle manière ou de telle autre. Et c'est là que ça se joue. C'est là que finalement l'intelligence artificielle ne peut pas uniquement être évaluée à ses performances intrinsèques, mais à sa docilité pour traduire telle ou telle valeurs, modes de fonctionnement, idéaux, et toute la question est là. Toute la question, je dirais, plus politique de l'IA, elle est vraiment dans son lien avec ce que j'appelle les ultra-forces. Notre monde est dominé par des ultra-forces, c'est-à-dire
des grands groupes, des
mais oui, des mmh. grands groupes et des devenirs, la robotisation du monde, sa financiarisation, la question de la numérisation, ce sont des processus qui s'imposent à notre humanité comme une sorte de nouveau destin.
Oui.
Nous avons, grâce à nos sciences et à nos techniques, et c'est pour ça qu'elles sont des puissances d'émancipation, un peu tempérer la puissance de la nature sur les devenirs humains, tant mieux. Vraiment, il faut toujours rester une femme ou un homme des lumières par rapport à ça, mmh. mais tempérant ces puissances de la nature grâce à nos sciences et nos techniques, nous avons fait émerger de nouveaux types de puissances, qui sont mmh. des puissances techniciennes, qui sont des puissances économiques, avec lesquelles on cherche aujourd'hui et un rapport de pouvoir et un type d'aménagement pour que ces fantastiques progrès utiles qui obéissent à des lois, et à des lois véritablement d'accélération, ne modulent pas les sociétés humaines au détriment des valeurs qui nous sont chères. C'est vraiment là toute la question. Et si le petit chatbot de ma pièce est philosophe avec les guillemets de circonstance, c'est parce que il arrive à dire cela.
Oui.
Il arrive à mettre en garde finalement des humains qui se disent waouh, on va créer des robots philosophes. Ouais, mais tant que c'est à l'intérieur de l'académie, c'est très bien. Mais dans quel dispositif, dans quel milieu associé ces intelligences-là vont se retrouver par la suite? C'est toute autre question.
On spoile pas la fin de la pièce parce que pour l'instant elle se joue pas, elle ne se rejoue pas, mais c'est vrai que c'est le chatbot lui-même qui parle de la capacité à produire du commun avec ces outils-là, à faire société, à aller vers l'altérité en fait, qui fait que bah il y a peut-être une solution justement pour que humain et machine travaillent ensemble. Est-ce que c'est très simondien ce dialogue, cette volonté de collaborer entre le philosophe humain et la machine? Est-ce que c'est ce souhait d'essayer de trouver la voie à la fois de la réflexion et de l'innovation?
Ça sera, oui, Simondon
ça
était
sera notre dernière question.
Tout à fait. Oui, Simondon était soucieux de créer des synthèses, soucieux de créer des ponts, et ce qu'il entrevoyait, c'était une possible divergence entre une concrétisation technique, donc un devenir technique qui va dans un sens, et puis une individuation humaine qui va dans un autre sens, et que ces deux puissances divergentes, ces deux devenirs, s'éloignent toujours davantage. C'était sa grande frayeur, et lui cherchait par le langage, par la philosophie, à réajointer, à retrouver des synergies, à retrouver du commun finalement entre ces deux processus. Ben, c'est... ce qui veut dire qu'il avait une vigilance contre ce qui créait de l'écart. C'était son optimisme qui reste nourrissant, même si notre monde est infiniment plus complexe et les rapports de force plus durs que le sien de ce point de vue-là.
C'est parfait pour conclure. Merci Pascal Chabot pour ce partage et ces échanges très riches. On rêve de voir à nouveau cette pièce monter quelque part pour nous pousser à réfléchir sur ces sujets. Merci à vous pour cette émission. Chers auditeurs, n'oubliez pas de liker cet épisode parce que ça manipule les algorithmes et c'est cool de manipuler les algorithmes. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Cause Commune, ce n'est pas que Parlez-moi d'IA, il y a aussi plein d'autres émissions qui peuvent aiguiser votre curiosité. N'hésitez pas à aller faire un tour sur cause-commune.fm. À bientôt.
Merci beaucoup et merci d'avoir reparlé de cette petite pièce il y a 7 ans. Effectivement, si quelqu'un veut s'en emparer, elle est à ceux qui veulent. Merci.